quand on regarde réellement les quantités de pluie qui sont tombées et qu'on les compare à tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire, c'est du jamais vu.
C'est vrai qu'il a plu beaucoup, mais moi je ne crois pas que tant d'eau vienne de la pluie seulement. On a lâché le barrage et j'espère que l'enquête va faire ressortir ce qui s'est passé exactement.
Quand on a donné l'ordre d'évacuer certaines communes, elles étaient, pour les endroits les plus touchés, inévacuables.
Il y a deux enjeux, c'est comment est-ce qu'on se dote de nouvelles protections vis-à-vis des enjeux de l'avenir, mais ça ne pourra se faire que si on reconnaît l'ampleur de notre ignorance.
La première, démocratie en question, Arnaud Reussen.
Cet épisode-ci, il n'était pas prévu au programme, a priori. Mais il s'est imposé comme une évidence devant l'ampleur des inondations catastrophiques qui ont frappé la Wallonie. Un phénomène de pluie totalement exceptionnel, de crues jamais vues depuis des centaines d'années, des scènes semblant irréelles, impensables dans nos contrées, en général si paisibles. Et pourtant, cet impensable, il a un peu tendance à se répéter ces dernières années. En 2016, c'était les attentats terroristes. En 2020, la crise Covid qui nous obligeait à nous confiner chez nous pendant de nombreux mois. Et en 2021, voilà donc une bonne partie de la Wallonie dévastée par des inondations. Et surtout, des scientifiques qui nous disent que ces phénomènes risquent à l'avenir d'être plus courants et plus aigus. Alors, faut-il revoir nos modes de gestion, de décision ? Faut-il réinterroger notre rapport à ce monde qui nous entoure ? Comment intégrer l'inenvisageable dans nos démocraties ? C'est la question que l'on va prendre le temps d'explorer.
Épisode 7, comment penser et gérer l'impensable.
Tournez à gauche sur rue Ri de Mospeux.
Commençons par prendre la direction de la zone sinistrée. Nous sommes le mardi 10 août, trois semaines après les pluies diluviennes qui, en 72 heures, sont venues dévaster plusieurs vallées de Wallonie.
Dans 3,2 km, tournez à droite sur rue de Verviers.
Mon GPS me guide vers le sud-est de Liège, d'abord le long de la Meuse, puis de l'Ourthe, pour enfin rejoindre la Vesdre. Et c'est une sorte de crescendo de dégâts et de blessures profondes. Sur les rues qui avoisinent le lit de ces rivières, pratiquement tous les commerces sont vides, avec des traces de boue sur les vitres souvent fracturées, des trottoirs arrachés, des panneaux de signalisation tordus. Des branches et des déchets sont en tas, çà et là, le long des rivières, devant les maisons, et des dizaines de personnes sont en train, armées de pelles, de brosses ou de raclettes, de nettoyer autant que possible les stigmates de la catastrophe.
Tournez à droite, sur rue de Verviers. Puis arrivez à votre destination.
Mais le pire est encore à venir. À 9h30, j'arrive à Trau, commune d'un peu plus de 8000 habitants, qui est parmi les plus dévastées de la région. La Vesdre, qui serpente sur plus de 8 km dans la commune, a retrouvé son lit, a retrouvé son calme. Elle paraît presque inoffensive sous ce soleil matinal. Et pourtant, trois semaines plus tôt, gonflée par des pluies diluviennes, elle est entrée en furie, avec un débit de plus de 800 mètres cubes par seconde au plus fort de la catastrophe, emportant des voitures, des parties de maisons, détruisant des ponts, ravageant des quartiers entiers en quelques heures seulement. Alors, la commune ressemble à une zone de guerre, un terme souvent galvaudé, mais ici je ne vois pas quel autre mot utiliser, malgré déjà trois semaines de boulot intense pour soigner les plaies du désastre. Et celui qui doit essayer tant bien que mal de gérer cette situation totalement inédite sur le terrain s'appelle Fabien Beltran, bourgmestre socialiste de la commune. Je le retrouve dans une vieille camionnette verte un peu cabossée sur laquelle des autocollants communes de Trau ont été placardés à la hâte.
Il faut s'imaginer qu'ici on a déjà ramassé 10, 15, 20 fois ça. Hein.
Ah, c'est dingue.
On a déjà travaillé énormément. Hein.
Toutes les rues étaient complètement bouchées, jonchées de voitures.
Des voitures empilées dans tous les coins. Là, ici, on est dans des endroits qui a été quasiment le moins touché.
Ah oui.
Pour tout vous dire.
Et ça veut dire quoi, par exemple, ici, il y avait de l'eau à quelle hauteur ?
Faut regarder les traces sur les maisons. On, mon avis, on n'était pas loin du 1,50 m. là où on va aller, il y avait eu 3-4 mètres.
Et je regardais, oui, il n'y a plus aucun commerce, évidemment, à cette hauteur-ci qui fonctionne aujourd'hui.
Ce qui fait peur, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient recommencer.
Ah
oui. Donc, voilà. On n'était déjà pas bien riche en commerce.
C'est combien d'habitants, la commune de Trois?
Il y a 8700 habitants et il y a 4700 sinistrés. Voilà la hauteur de l'eau, on le voit sur la façade.
Oui, 1,50
m. C'est la vitrine. Là, notre pont qu'on arrive ouvert hier provisoirement. Interdit au plus de 3 tonnes et demi, mais il y a tous les jours des camions qui essayent de forcer le barrage en franchissant des panneaux d'interdiction.
Ouais. Et donc, si j'ai bien entendu votre chiffre, il y a plus de la moitié des habitants de votre commune qui sont sinistrés.
Ouais.
Et vous tenez le coup ?
On va changer de sujet. Ouais. Et on va voir la trace de l'eau ici.
Depuis 3 semaines, le quotidien de Fabien Beltran ressemble un peu au travail de Sisyphe.
Et donc on est déjà passé 10 fois, 20 fois ramasser, mais le problème, les gens vident leurs armoires. Puis après ils se rendent compte que les armoires sont foutues, donc il faut des armoires sur la route. Puis après ils se rendent compte que le sol, les murs sont foutus, donc ils arrachent et ils vident sur la route. Puis ils vont dans la cave, ils se rendent compte que... etc. Donc c'est un travail sans fin, quoi. Là, on a mis un point relais.
C'est quoi ça, un point relais?
Un point relais de la Croix-Rouge pour distribution de nourriture.
Il va falloir faire la police.
Ouais. Ouais, je sais.
Son téléphone sonne toutes les 5 minutes. Il faut sans arrêt gérer des situations totalement hors du commun, comme d'empêcher un énorme camion de monter sur un pont devenu bien trop fragile pour lui.
Oui, Julia, c'est Fabien. Dit, je viens de choper un camion lituanien, c'est 40 tonnes, gros en rue, devant le commissariat là, qui s'apprêtait à aller sur le pont de Préon. Mais la signalisation, quelqu'un l'a relevé, il n'y a plus de signalisation qui interdit de monter sur le pont. Donc il faut absolument envoyer des gars pour lui faire demi-tour, hein, parce que moi je l'ai arrêté, mais je crois qu'il en a la faute de ce que je lui ai dit, pas en substance. Quoi.
Fabien Beltran nous emmène au quartier de La Brouque, le quartier le plus dévasté de la commune. Des dizaines et des dizaines de maisons en enfilade sont devenues là-bas totalement inhabitables.
Ici c'est chez Jacopin, il y avait ça là derrière, sur... 4 mètres de haut. Là.
Ah ouais.
Et quand ils ont commencé à débayer, à un moment donné, ils sont tombés sur un cadavre.
Ah merde.
Ouais. Donc ici, les gens, ils ont eu de l'eau jusque. Bon, voilà. Jusqu'au.
Ouais, on voit.
Jusqu'au.
Jusqu'au-dessus voilà. Des portes, en fait, du premier étage. Enfin, du rez-de-chaussée. Ouais. Ouais, quasiment jusqu'au deuxième étage.
Regardez. Voilà, c'est pareil. J'avais un bon client pour une interview.
C'est chez vous ici?
Ouais.
On peut faire un petit tour avec vous?
Oui, faut pas chez vous.
J'ai un micro, donc j'enregistre un peu si ça vous dérange pas. Mais
pas du tout.
Donc voilà, c'est le résultat. Donc lui, il a eu de l'eau jusque au-dessus.
Et donc c'est monté plus haut que le plafond de rez-de-chaussée ici.
Alors bon, ici, parce que il a déjà dégagé des trucs derrière quand même.
Jardin, après. Ouais.
Et encore lui, il a de la chance, il est organisé, il a des gens avec lui, tout ça, il y a des gens,
ils sont
tout seuls. Hein.
Ouais. Oh, tout était en tech, tout est parti. Porte de garage arraché. L'eau était plus haut que les garages, en fait.
Et comme ceci, là, parce que moi je ne connais pas grand-chose, la stabilité de la maison est menacée ou pas? Non. Normalement, on peut
ici,
réaménager.
Ici, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles se touchent toutes. Quoi. Donc elles se tiennent les unes les autres. C'est plus compliqué sur celles qui sont sur les coins.
Un énorme déshumidificateur tourne à plein régime, mais il va y en avoir pour des semaines. Plus de plâtre sur les murs, les briques sont gorgées d'eau, les vitres sont cassées, certains châssis sont tordus. L'habitation est évidemment totalement inhabitable.
Venez, on va aller un peu. Et vous vivez où alors pour le moment? Vous avez dû vous installer ailleurs complètement?
Au Corp, une semaine chez ma sœur, l'autre semaine chez ma belle-sœur, pas le choix. On voulait faire, on n'a pas le choix.
Et vous avez des solutions comme ça à proposer pour ceux qui ne peuvent pas être logés chez des amis?
Non. On a
Il y a 300 logements sociaux dans la vallée, dans les deux communes l'une à côté de l'autre. Il y a 300 logements sociaux sinistrés. Je ne parle pas, ici c'est privé, hein, logement social. Et il y en a 120 disponibles dans tout l'arrondissement de Liège. Tout l'arrondissement de Liège. Donc les autres communes qui sont sinistrées aussi ont accès au même logement que nous. Il y en a 120 pour 300.
Alors que vous voudriez reloger pour bien faire 300 familles.
Non, plus de 600 qu'on en a relogé. Ah. 300 logements sociaux plus 300 dans le privé. Et ici, vous avez une maison, il y a une maison à vendre, elle est à 150 000 le matin, elle est à 200 000 le soir. C'est la surenchère.
Et malgré ça, ce n'est pas l'abattement qui prédomine.
Mais bon, on est tombé sur deux qui étaient de bonne humeur. C'est pas partout pareil.
Oui, non, mais ça, j'imagine.
Il y a une petite cuisine fonctionnelle.
Oui, oui, c'est classe. Il y a des frigos, il manque de rien.
Ouais,
il est rempli de chopes. Oui, ben, il faut bien tenir. Ouais, ça n'a pas chaud, il faut avancer après.
Nous reprenons la route, ou du moins ce qu'il en reste, dans ce quartier de la Brouque. L'occasion de faire le point avec Fabien Beltran sur la façon dont s'organise l'aide venue des autres niveaux de pouvoir, l'aide à cette commune de Trau, donc lourdement sinistrée.
Et ça va, vous avez l'impression d'être soutenu par ailleurs? Ou bien vous sentez un peu seul
Vous avez fait le tour de la commune un petit peu avec moi, vous avez vu beaucoup de monde.
Ah, c'est ça.
Voilà. C'est ça le problème. Alors, on nous promet des choses, et c'est ce que je disais, c'est le temps entre l'action et la réaction. L'administration, nous, on a besoin de l'action, enfin de la réaction dans la minute de l'action, quoi. Il faut pas, on ne sait pas attendre 3 jours, 4 jours. On nous dit, on va vous mettre des gens, très bien, mais on a eu une réunion il y a une dizaine de jours, une semaine, pardon. Avec les commissaires à la reconstruction, on a expliqué tout l'état de la commune et tous nos besoins, et on est 10 jours après et on ne connaît pas le résultat de leur réflexion. Mais alors je te paye qu'ils n'ont pas que nous, hein, mais bon voilà. Ah mais il n'y a personne derrière le volant.
Et au moment de la crise elle-même, enfin je veux dire quand l'eau était à 1,50 m, là vous étiez tout seul aussi.
Mais j'avais de l'aide, hein. J'avais ma femme, j'avais ma belle-sœur, j'avais une copine et un commissaire de police avec moi.
Oui c'est ça. Mais il n'y a pas eu une espèce de coordination générale entre les communes de la province, etc.
Non, quoi. C'est moi qui fais. J'ai fait appel à. Vous savez, les bourgmestres, ça y est, c'est une secte. C'est une confrérie. Et donc on se connaît tous. Et moi j'ai crié à l'aide auprès de mes copains bourgmestres, que ce soit à Blény, à Serret, dans d'autres communes. Enfin, ils m'ont tous amené des gens, Herstal, des ordres, des équipes qui sont venus travailler ici pendant des jours et des jours et des jours. Hein. Et si j'avais pas ces gens-là,
hein,
j'y étais encore. Hein. C'était plein, quoi. Il y avait des crasses partout. Hein. Des gars qui sont venus comme ça avec des tracteurs d'autres communes avoisinantes et qui. On a évacué pendant 10 jours 6 000 mètres cubes par jour ici. Hein.
6 000 mètres cubes par jour.
Pendant 10 jours, hein. On fait ça 60 000 mètres cubes et il y en a encore tout autant. Hein. C'est une maison qu'on a dû raser parce qu'elle s'était à moitié effondrée ici. Celle-là, il faut la raser aussi.
Ouais. Mais donc tout ça, c'est la commune qui à la fois gère, décide, etc. Et vous payez tout ça comment? Parce que
moi j'ai dit que l'argent c'était un détail qu'on verrait plus tard.
Donc, ouais. Ici, enfin je veux dire, il faut quand même avoir les lignes de crédit, etc. pour pouvoir. Les entreprises, j'imagine, elles ne viennent pas bénévolement.
Donc... Ici c'était vide avant-hier. On avait tout vidé.
Nous arrivons entre-temps sur le parking du terrain de football. Le jour des inondations, celui-ci était complètement sous eau et il a fallu, dans les jours qui suivaient, évacuer des milliers de mètres cubes de branches, de gravats et de déchets. Aujourd'hui, ce même parking sert de cimetière de voitures, avec des centaines de véhicules garés çà et là, cabossés, déchirés, complètement défoncés par les flots. L'un des habitants de la commune est d'ailleurs venu photographier sa voiture, désormais inutilisable.
Bonjour monsieur.
D'abord ma voiture en photo.
Ah, pardon.
Il y a un papier dessus, c'est ça.
J'ai téléphoné à Hans. Ils m'ont dit, oui, on a reçu votre demande. On doit trier. Ouais.
C'est ce que je disais, ils ont 300 demandes, ils ont 110 logements disponibles. Ça va être la loterie, je ne sais pas comment ils vont faire.
Mais donc, vous, votre situation, c'est quoi ? Votre maison est inhabitable et là, vous essayez de trouver une solution de relogement.
On essaye de retrouver un logement modeste parce qu'on n'est pas fort riche. On n'est pas fort riche. Et notre but, c'est de repartir le plus vite possible sur de bonnes bases, là où nous serons. Voilà, c'est notre but. Voilà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué.
Et là, par exemple, vous ne pouvez plus vivre chez vous et vous vivez où alors pour le moment ?
Pour le moment, nous logeons chez une amie à ma compagne, mais ce n'est pas évident, on est chez une personne. Et bon, on voudrait repartir sur de bonnes bases, et voilà, mais ce n'est pas évident. Voilà.
Ouais, j'imagine. Et là, c'est votre voiture, donc complètement inutilisable.
Ça, c'est vous n'avez plus de voiture, par exemple. Je n'ai plus de voiture, je suis chauffeur bénévole et je ne sais plus rouler. Voilà.
Ouais.
Voilà.
Le quotidien, donc, pour les autorités communales des zones sinistrées, c'est de voir bricoler des solutions, une gestion d'urgence permanente encore 3 semaines après les crues. Rien dans les structures habituelles ne peut fonctionner normalement. Une commune n'a évidemment pas les reins financiers assez solides pour surmonter un tel choc. Quand il faut dépenser 1,5 million d'euros tous les 3 jours, les finances communales ne peuvent pas suivre. Heureusement, il y a quand même la solidarité et des gestes complètement inattendus, comme celui fait par un entrepreneur flamand venu de la commune de Maldeghem, en Flandre orientale, quelques jours seulement après les inondations.
Il est arrivé avec ses 3 ouvriers ou 4, et il est venu travailler pendant 10 jours à trop. Et il a vu la détresse qu'il y avait chez nous et surtout le fait qu'on n'avait plus rien. Et il est rentré chez lui et il nous a acheté un camion.
Vous avez acheté un camion.
Ils ont acheté un camion grappin, et le bourgmestre nous a. Le bourgmestre nous a prêté une benne, enfin un conteneur pour mettre sur le camion. Le bourgmestre de Maldeghem. Et donc je me retrouve maintenant avec un nouveau camion offert par un indépendant flamand.
Ah oui, c'est génial quand même.
Oui, mais enfin, vous que c'est normal.
Non, normal, ça n'est pas. Bon, enfin,
donc, c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'en ai des frissons à chaque fois que je le dis. Mais c'est pas normal. Pas normal. Ça devrait arriver d'ailleurs.
Et pour l'argent, puisque bon, quand même, vous devez payer des entreprises au quotidien pour trouver des solutions, etc. On vous dit, vous pouvez dépenser sans compter, on couvrira, ou bien c'est vous qui vous dites tant pis, je prends le risque et on verra bien après.
J'ai commencé par tant pis, je prends le risque, on verra bien après. Et maintenant, j'essaye de leur faire passer des factures. Alors, il y en a qui sont acceptés, d'autres qui sont contestés. Mais bon, voilà, donc, il y a tout un tas de factures et de réquisitions que j'ai faites qui sont maintenant acceptées. Mais ce que j'ai constaté, c'est que 3 jours avant la fin de la phase fédérale, toutes les réquisitions que j'ai faites, j'avais d'habitude une réponse dans l'heure ou dans les 2 heures. 3 jours avant la fin, je faisais des réquisitions, on ne me répondait plus.
Oui, mais bon, en tant que bourgmestre, vous avez quand même une responsabilité civile, personnelle, en tant que vous, Fabien Beltran, qui est engagé. Vous y pensez, ça, parfois, ou vous dites,
non,
de toute façon...
Non, j'y pense pas. Vous savez, c'est la guerre. J'ai des maisons qui s'effondrent, il faut que je refasse des rues, je réquisitionne. Je ne sais pas chipoter. Tant pis, j'engage des frais, on verra bien qui payera après. C'est tout. Mm. Et j'ai fait ça 10, 15, 20, 30 fois. Quoi. Et donc, maintenant, j'essaye de faire passer les factures.
Oui. Le budget d'une commune comme la vôtre, ici, trop, c'est quoi ?
C'est 8,5 millions, 9 millions d'euros par an. Et là-dedans, il y a 4 millions de frais de personnel. Donc, si on enlève les frais de personnel, c'est 4-5 millions d'euros.
C'est ce que vous dépensez ici en 2 semaines, pour le moment, quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, et la commune, elle continue à fonctionner. Hein.
Il est près de midi à Trop. L'armée a commencé à distribuer quelques repas chauds. Dans les rues, on entend ronronner les pompes, travailler les pelleteuses. À quelques exceptions près, toutes les maisons du quartier de la Brouque sont inhabitables. Mais souvent, leurs occupants sont là, armés encore de pelles et de brosses.
Voilà notre cher bourgmestre, tiens. Je ne fais pas de commentaires, parce que je sais que vous avez du travail par ici, la pelle.
Et chez certains, la colère monte.
Que je peux vous poser une ou deux questions?
Ah, lui, il va répondre.
Gennaro, vas-y.
Ah, mais lâche, non, lâche-toi. Allez-y, c'est le moment. Vous êtes en colère?
Oui.
Sur qui, en fait?
Sur la gestion du barrage. C'est vrai qu'il a plu beaucoup, mais moi, je ne crois pas que tant d'eau vienne de la pluie seulement. On a lâché le barrage. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on essaye de noyer le poisson, comme on dit, c'est le cas de le dire. Mais j'espère que l'enquête va faire ressortir ce qui s'est passé exactement. Hein. Parce que c'est pas possible. Autant d'eau, avoir 3-4 mètres dans la vallée sur une si grande surface, ce n'est pas de la pluie, c'est impossible.
Alors, dans la suite de notre reportage, on a voulu comprendre jusqu'à quel point cette situation était prévisible, anticipable, si effectivement c'est un problème de gestion de barrage qui a provoqué une telle crue. Et pour ça, on a repris la voiture, direction Liège.
Début de l'itinéraire vers Parc de la Bovrie.
La première, démocratie en question, Arnaud Reussen.
Là-bas, on a fixé rendez-vous à Xavier Kounas, journaliste au journal Le Soir. Il vient de boucler 2 semaines d'enquête, durant lesquelles il a essayé de comprendre ce qui s'était passé. À quel point ces pluies étaient exceptionnelles, les responsabilités des uns et des autres dans la gestion des barrages, dans la coordination de l'urgence. Assis tous deux le long de la Meuse, j'ai commencé par lui demander si on pouvait parler d'un événement totalement exceptionnel.
Je pense clairement qu'on peut répondre que oui. Quand on regarde réellement les quantités de pluie qui sont tombées et qu'on les compare à tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire, c'est du jamais vu. Je prends l'exemple extrême, mais qui sont les 288 mm qui sont tombés en 3 jours sur le pluviomètre de Jalhay, donc le petit outil là où on mesure les eaux qui tombent à Jalhay. Il faut savoir que normalement, sur une période de 3 jours, on s'attend à ce qu'il tombe, je pense de mémoire, aux alentours de 120 mm, une fois tous les 200 ans. Et ici, on est à plus du double, donc on est à des périodes de retour à un temps estimé, de phénomènes qui arrivent sans doute une fois tous les 400-500 ans sur les zones les plus critiques. Au niveau du service public de Wallonie, qui étudie les débits dans les cours d'eau, ils disent carrément que sur la Vesdre, le débit qu'on arrive à reconstituer petit à petit, qui était de 800 m3 par seconde à Pépinster, eh bien c'est un débit qu'on est censé observer une fois tous les 1000 ans, et peut-être même moins. Ce qui est donc totalement historique. Le précédent record sur cette Vesdre était 275 m3 seconde. Selon les estimations ici, vu que tous les appareils ont été arrachés, on était au-delà de 800. Ce qui montre quand même bien, je pense, l'ampleur et le côté tout à fait inédit de ce qui est tombé, en particulier sur la vallée de la Vesdre.
Premier élément donc, le ciel nous est presque littéralement tombé sur la tête. D'autant que ces quantités records de pluie ont été enregistrées sur une zone très large, pratiquement la surface de toute une province. Ceci dit, y a-t-il aussi des responsabilités humaines, en particulier dans la gestion des barrages? Faut-il chercher là, comme certains riverains en émettaient l'hypothèse, la raison d'inondation à ce point exceptionnel?
C'est compliqué de dire s'il y a une faute majeure ou si le barrage a été mal géré. Je pense qu'il faudra encore un peu de temps et plus de données pour affiner l'analyse. Mais par contre, ce qui est clair et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le barrage de Penne, en l'occurrence, a dû restituer de l'eau. Et entre la nuit du mercredi à jeudi, on parle au maximum d'un débit de 193 m3 par seconde d'eau. Quand on sait que sur la Vesdre, il y avait à peu près 800 m3 par seconde au maximum. C'est-à-dire qu'il y a eu un apport d'eau de la part du barrage qui n'est pas du tout anecdotique. Qui a fait monter le niveau de la Vesdre et donc qui a aggravé la situation. Mais on peut voir le phénomène de deux façons en réalité. S'il n'y avait pas eu de barrage du tout, on aurait eu sur le début de la Vesdre un débit plus fort. C'est-à-dire que pendant toute la première partie de la crise, ce barrage, il a fait mûr, il a permis dans le lac au-dessus du barrage d'accumuler un peu d'eau, de remplir, de stocker de l'eau. Et d'habitude, sur les crues précédentes, eh bien, ça suffisait. Cette fois-ci, notamment parce que les pluies qui sont arrivées sont totalement historiques, et bien le barrage n'a pas pu aller jusqu'au bout et exercer ce rôle. À un moment, c'était plus possible de faire cet effet tampon, ou en tout cas à 100%, et donc il a dû restituer cette part d'eau, qui évidemment provoque, surtout pour les premières communes en aval du barrage, des débits jamais vus à ces endroits, et des zones inondées qui n'étaient jamais inondées par le passé.
Donc, le barrage a pu jouer son rôle de tampon jusqu'à un certain point. Mais débordé au plus fort de la crise, il a dû relâcher de l'eau à un moment où il y en avait déjà énormément. N'y avait-il pas moyen alors de gérer les choses mieux, en vidant largement le barrage en amont les jours précédents pour augmenter ses capacités de faire tampon ?
J'ai quand même le sentiment, avec les quelques calculs et les premières réflexions qu'on a pu faire, que sans doute il aurait été possible, en refaisant l'histoire, de lisser ça un peu mieux et de faire un peu plus de place, ce qui aurait permis d'éviter de restituer une partie de l'eau, mais que dans tous les cas, ce barrage aurait, à mon avis, dû restituer cette eau à un moment ou à un autre, et que, quoi qu'il arrive, toute l'eau qui venait par ailleurs dans la vallée, c'était déjà des quantités d'eau tout à fait historiques, donc ça n'aurait pas empêché d'avoir des inondations historiques. C'est une question très théorique et complexe à refaire a posteriori, parce qu'en fait, ce barrage, peut-être qu'il faut rappeler ça aussi, mais ce barrage, c'est un... Avant tout, ils l'utilisent pour gérer un réservoir d'eau potable. Et donc, ils ont été confrontés ces dernières saisons, je crois, les trois dernières années, c'était à une sécheresse, et leur crainte, c'était qu'il n'y ait plus assez d'eau dans le barrage pour assurer l'eau potable de toute une région. C'est pour ça qu'il a été créé, le barrage. Et en deuxième temps, on utilise une partie de ce lac pour faire ce tampon en cas de grosse crue. Mais ce n'est pas sa fonction première. Et donc, quand j'ai pu parler à différentes personnes là, qui gravitent autour de ce barrage, ils disent, dans toutes les réunions qu'ils ont, la réflexion et les questions qui se pose aujourd'hui sur la gestion du barrage, c'est surtout pour faire en sorte qu'on ait une réserve d'eau potable non-stop en permanence l'été et qu'on ne soit pas touché par la sécheresse. Pas de chance, il se fait que l'événement historique qui s'est passé, ce n'est pas une sécheresse radicale 3 ans de suite, mais c'est des pluies totalement historiques.
Et là, on s'approche de la question qui est au cœur de cet épisode de Démocratie en question. Comment penser la gestion quand on a des événements qui sortent à ce point de l'attendu? Les dernières années, il avait fallu préserver un maximum d'eau dans ce barrage pour faire face à des épisodes de canicule, de sécheresse, et voilà que tout à coup, il faut utiliser ce même barrage pour un objectif totalement inverse.
Le barrage est créé pour être une réserve d'eau. Et donc, sur les 25 millions de mètres cubes disponibles, il y en a 3 qui sont toujours gardés en réserve pour accueillir de l'eau en cas d'inondation. Et les 22 autres jouent ce principe de réserve d'eau potable. Donc, il est vraiment conçu pour ça. Il n'est pas prévu dans le plan de gestion de ce barrage qu'on le vide à un moment à moitié pour gérer une inondation. Ce n'était pas prévu. Mais peut-être qu'il faut se poser la question de se dire, tiens, quand les prévisions sont alarmistes, quand on voit venir une crue historique, est-ce qu'on ne devrait pas un peu revoir le plan de gestion de ce barrage pour l'utiliser de façon un peu plus flexible et permettre d'accueillir un tampon, une quantité d'eau un peu plus importante en cas de crue? Et je pense qu'incontestablement, il y a un débat à avoir sur l'outil, est-ce qu'il faut plus de flexibilité, est-ce qu'il faut, vu les phénomènes et les changements climatiques annoncés, penser à utiliser ces barrages autrement? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il faut construire des nouveaux barrages sur certains cours d'eau dont la fonction spécifique serait de servir de réserve en cas d'inondation et pas de servir de réserve d'eau potable, hein? C'est des questions qui se posent, mais il faut quand même avoir l'honnêteté de dire qu'à Eupen, comme à la Gilet, avant tout, ces barrages ont été construits comme des réserves d'eau potable.
Les climatologues, on en parlait dans notre épisode précédent, nous annonce effectivement que ce genre de phénomène, qui ne se produisait jusqu'ici qu'une fois tous les quelques siècles, pourrait se produire plus souvent, qu'on pourrait alterner des épisodes de pluie diluvienne avec des épisodes caniculaires, transformant nos régions en étuves. Et donc, il va falloir en quelque sorte de plus en plus prévoir l'imprévisible. Question alors encore à Xavier Kounas, la gestion de la crise par les autorités, dans la coordination des secours notamment, aux différents niveaux de pouvoir, a-t-elle été à la hauteur de l'événement ?
C'est compliqué évidemment pour un journaliste d'aller pointer des responsabilités, on n'est pas juge, mais c'est clair que là aussi je pense qu'il y a une série de questions qui se posent dans la chaîne de décision, dans la chaîne de transmission des informations importantes aussi, ou dans la chaîne de commandement. certains nous ont quand même fait part d'une forme de solitude, de sentiment d'abandon, en particulier les bourgmestres en réalité. Les bourgmestres de différentes communes les plus touchées, en bord de Vesdre notamment, nous ont raconté qu'ils ont pris les décisions tout seuls. Alors certains disent, mais moi je suis bourgmestre, en fait c'est mon rôle de faire ça quand il y a une crise et quand je dois gérer l'urgence sur mon territoire, je prends les arrêtés, j'évacue si juge qu'il faut évacuer, et je dois le faire sans attendre des ordres et des commandements de la province ou de plus haut encore. D'autres ont cherché de l'aide auprès de l'armée de la province, ont attendu en vain des consignes et qui ne sont pas venus et donc n'ont pas pris la décision d'évacuer. Théoriquement, normalement, on crée directement une cellule de crise provinciale au niveau de la province de Liège, et donc c'est le gouverneur qui est responsable de gérer cette province, et c'est au gouverneur de gérer la crise comme il se doit. Alors il y avait des crises à tous les niveaux, hein. Et les équipes du gouverneur ont dû sans doute prioriser certaines décisions, ce qui fait que d'autres se sont sentis tout seuls, et que là-dedans, je ne suis pas certain que vu l'ampleur tout à fait inédite de la crise, tout le monde ait eu l'info rapidement. Un des points les plus fous, c'est quand on se rend compte que le gouverneur, in fine, diffuse auprès de tous les bourgmestres concernés un arrêté d'évacuation de 8 communes à 19h16 le mercredi, alors que tous les témoignages du terrain nous disent qu'à 19h16 le mercredi, dans les endroits les plus touchés, c'était plus possible d'intervenir parce qu'il fallait des bateaux trop puissants, parce que les camions de l'armée ou de qui que ce soit ne pouvaient plus passer. Et donc, c'est un mauvais gag, hein, parce que, évidemment, vu quand on voit comment ça s'est terminé, il n'y a pas de quoi en rire, mais quand on a donné l'ordre d'évacuer certaines communes, elles étaient, pour les endroits les plus touchés, inévacuables.
Bref, au-delà des responsabilités de chacun dans l'anticipation, dans la gestion de crise, dans la coordination, des responsabilités qui seront sans doute établies plus tard par des enquêtes, il reste cette question de fond. Comment peut-on se préparer à gérer l'inenvisageable, surtout si de telles crises en viennent à se répéter? Sans doute faudra-t-il penser des outils spécifiques de gestion de crise.
Je pense notamment à tout le système d'alerte ou de préalerte. Qui est censé voir venir ces crues? Qui est censé être prévenu? Est-ce que les alertes sont comprises? Est-ce qu'elles sont assez claires? Sur la chaîne de commandement, qui décide quoi? À partir de quand les bourgmestres ont le pouvoir? Ou est-ce qu'on retourne vers le centre de crise provinciale? Et comment l'information est censée transiter? Via quel canal? J'entendais des gens qui n'avaient simplement plus accès sur le terrain à cause des intempéries, qui n'avaient plus accès, plus de connexion Internet, et des bourgmestres qui n'avaient donc plus accès à leur mail, alors que l'information qu'on leur communiquait arrivait par mail. Mais on n'utilisait pas un réseau d'urgence parallèle, ce qui me semble être dingue, en fait. Et donc, il y a là aussi, sans doute, des conclusions à tirer. On l'a dit sur la façon dont on gère nos barrages, l'utilité. Est-ce que dans le plan de gestion actuel, on tient assez compte de ces phénomènes climatologiques extrêmes? C'est clair qu'il y a un paquet de questions qui se posent, qui me semblent être pertinentes, qui vivent déjà depuis un moment, et qui vont continuer à vivre. Pour ajouter, quel rôle joue l'armée, la protection civile, l'interaction entre les deux, qui est censé être les premiers à amener de l'aide, est-ce qu'on a le matériel suffisant, est-ce qu'on est équipé pour sauver les gens qui sont sur un toit ou au deuxième étage? Quand j'entends que les bateaux de l'armée n'avaient pas un moteur assez puissant, qu'il a fallu réquisitionner des zodiacs dans certaines communes de privés pour pouvoir en évacuer certains, que l'hélicoptère français pouvait lui venir à la rescousse de certaines personnes alors qu'on n'avait pas d'hélicoptère niveau belge, il y a une question matérielle là aussi. Tout ça va vivre, tout ça, je pense, enfin j'espère en tout cas, on arrivera à en tirer les leçons et à pas les oublier trop vite, parce que c'est parfois une fâcheuse tendance qu'on peut avoir à tirer des conclusions à court terme et puis, quand l'événement se reproduit un peu plus tard, avoir oublié qu'on avait tiré des conclusions. Il y a des choses qui doivent évoluer, et ça me semble clair.
Mais la démocratie, alors, dans tout ça? Certes, dans la gestion d'urgence, ce sont les exécutifs, ce sont parfois des personnes seules qui sont aux manettes, avec la mission de gérer au mieux, dans l'intérêt de tous. Mais comment adapter pour le futur nos démocraties, nos outils de prise de décision, de délibération, de participation à ces enjeux qui risquent de devenir de plus en plus criants? Pour en parler, on a fait un dernier détour dans Liège pour se rendre dans le quartier du Laveux, sur les hauteurs, chez la philosophe Florence Kemax. Elle enseigne la philosophie politique à l'Université de Liège et elle commence par nous faire remarquer ceci. Nos sociétés aujourd'hui avaient comme un peu oublié leur vulnérabilité qui vient de nous être plusieurs fois cruellement rappelée.
Je pense que la chose que l'on oublie souvent, c'est l'ampleur de notre ignorance, quoi. Enfin, je veux dire que à tout nouveau savoir conquis, notre capacité, par exemple, de prévision en matière de météorologie, hein, qui a littéralement explosé ces derniers temps grâce, je pense, aux outils numériques, mais ça avait déjà commencé au début du XXe siècle, nous incline à nous enfermer dans ce que nous savons et d'oublier l'ampleur, en fait, ou l'immensité de notre ignorance. Et je pense que quand on a à la fois les mécanismes assez puissants, on va dire de protection sociale dont nous nous sommes dotés, bien sûr les richesses dont nous bénéficions, et en plus quelque chose de central dans le fonctionnement social qui sont les sciences et les technologies avec toute la charge idéologique qui va avec, alors là vous avez un cocktail qui nous conduit sur la voie de négliger notre ignorance. Voilà. Et je pense que il y a deux enjeux, c'est comment est-ce qu'on se dote de nouvelles protections vis-à-vis des enjeux de l'avenir, mais ça ne pourra se faire que si on reconnaît ou que si on accorde une certaine place à la reconnaissance de ce que nous ignorons. Voilà. Mm-hmm. Pour prendre une métaphore, prenons le conducteur qui roule dans un SUV très gros avec beaucoup d'acier. Bon, alors il y a quand même cette légende qui veut que dans les très grosses voitures, les gens vous diront toujours ça, j'ai eu un accident, mais heureusement j'étais dans ma BM, etc. Et tout s'est bien passé, par contre la petite voiture s'est fait écraser. Mais en fait, il y a un sentiment parfois de sécurité qui est complètement fantasmé. C'est-à-dire que celui qui fait un accident à 280 dans une voiture comme ça, il est quand même cartonné. Et je pense que ce sentiment de la maîtrise de l'environnement que nous avons, je crois qu'il doit être travaillé aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas maîtriser ? Enfin, c'est une question de stoïcien, en fait. Hein. S'occuper soigneusement de ce qui dépend de nous et ne pas fabuler sur ce qui ne dépend pas de nous. Voilà. Et savoir qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire qui ne seront pas sous notre contrôle ou sous notre maîtrise, c'est quand même très important aussi.
Pour notre philosophe, qui est aussi présidente du comité belge de bioéthique, il faut d'abord se souvenir que nos connaissances, certes de plus en plus étendues, ne nous donnent pas, loin de là, une compréhension exhaustive de l'univers qui nous entoure. Et même dans nos sociétés européennes, où nous avons développé toute une série de protections sociales fortes, nous ne sommes pas pour autant invulnérables. Du coup, Florence Kemac incite à repenser démocratiquement notre rapport au monde, la part de risque que nous sommes prêts à assumer, mais aussi les valeurs fondatrices de nos démocraties.
Les défis face auxquels nous sommes nous imposent de réouvrir la question de savoir ce que liberté veut dire. J'ai l'impression, vous voyez tous les débats aujourd'hui autour de la gestion de la pandémie, est-ce qu'un pass sanitaire, alors un pass sanitaire, au regard des constitutions, est certainement une restriction des libertés ? Mais on a beaucoup fait valoir aussi que c'est une restriction des libertés pour en garantir d'autres. C'est-à-dire que si tout le monde tombe malade, on n'est plus du tout dans une situation de liberté, même physique, en fait, tout simplement. Donc il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Ce qui est très intéressant, c'est que ça réouvre la question de savoir ce que veut dire liberté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important qu'on puisse resignifier des termes comme ceux-là. Parce que je pense qu'on n'évitera pas, justement, la question des nouvelles contraintes, quoi, ou des nouvelles restrictions. Parce qu'à mon avis, la situation écologique, la situation climatique va demander des arbitrages. Voilà. J'ai l'impression, par exemple, que ce n'est pas possible de réduire les émissions de CO2 si nous continuons à penser que la liberté s'identifie avec la possibilité d'aller voir un maximum de pays plusieurs fois par an. C'est pas possible. En même temps, c'est une notion très forte de la liberté de se déplacer, de voyager, etc. Peut-être qu'en fait, on va devoir faire peser les contraintes là-dessus. Mais ça veut dire qu'on va la réinventer autrement, notre liberté, en fait. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la réinventer sur des territoires plus restreints, par exemple.
Pour Florence Kemac, il y a lieu également de réinvestir démocratiquement ces arbitrages fondamentaux, avec de vrais débats participatifs, y compris sur les enjeux d'occupation des territoires, Mettre la question écologique, la question du risque, la question du vivre ensemble bien davantage entre les mains de ceux et celles qui vont investir au quotidien ces territoires.
Dans les choix qui sont faits, me semble-t-il, il faudrait un examen collectif, à la fois scientifique, mais aussi par des regards non scientifiques, de quand on prend une décision, quand on s'apprête à faire un choix. Par exemple, comment prévoir aujourd'hui, je n'en sais rien moi, je ne suis pas compétente pour le domaine, mais imaginons des sites d'habitation. J'ai l'impression que, aussi bien à travers les connaissances vernaculaires des gens concernés, c'est-à-dire que savent-ils de leur quartier, que savent-ils de leur territoire, qu'est-ce qui leur importe, que savent-ils du bois qui est à côté de chez eux, mais aussi à partir des connaissances scientifiques qu'on peut avoir à propos d'un territoire, quelles sont les connexions qu'on met en jeu, quelles sont celles que l'on assume de toucher et de modifier, quelles sont celles que nous devons absolument préserver. Et je me demande en fait si c'est pas des formes d'alliance entre ce type de savoir qui sont simplement liées au fait que les gens habitent sur un lieu, pratiquent un lieu, savent ce qui est important pour eux et qui peut être important sur le plan des valeurs, comment est-ce qu'on va dire, morales, affectives ou esthétiques, et de ce qui importe sur un plan plus matériel, vital. Et comment est-ce qu'on pourrait arriver à combiner ça avec la très haute technologie que nous pouvons utiliser et que nous pouvons aussi réorienter à partir de là.
Avec l'idée de pouvoir aussi démocratiquement définir ensemble les risques que l'on est prêt à assumer.
On pourrait imaginer des collectifs de citoyens qui diraient « Voilà, on sait que la rivière peut déborder. Les chances que la rivière déborde sont telles et telles. Est-ce que collectivement, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour ce quartier, Trot, Anzival ? Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement ? À quoi est-ce que les gens sont vraiment attachés qui les amèneraient à vouloir à dire « on va quand même peut-être rester ici » et d'aller jusqu'au bout d'une réflexion qui pourrait à la fois mesurer le risque mais aussi dire quels sont les risques que nous sommes prêts à prendre ensemble et qu'est-ce que nous pouvons nous donner comme assurance de comment est-ce qu'on y répond si ça arrive.
Et pour terminer, Florence Kemax nous propose cette comparaison avec les enjeux de santé.
Je crois que je pourrais faire un parallèle avec certaines définitions par la philosophie de la médecine de la santé. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie, ce n'est pas l'absence de risque, ce n'est pas l'absence d'aléas dans le cours de l'existence ou du corps, ou de la vie du corps. En fait, la santé, ce qu'on appelle la santé, c'est un état dynamique dans lequel un organisme ou un individu a la capacité de faire face aux accidents de l'existence. On peut attraper un rhume, c'est ça, une bonne santé, c'est une bonne immunité, c'est ce qui vous permet d'attraper un rhume et que ça ne vous tue pas ou que ça ne vous mette pas complètement au tapis, quoi. Et on doit se demander si une société qui commence, ou des sociétés qui commencent à être aussi affectées par les événements et par l'imprévisible, n'est pas en fait une société qui quelque part est un peu malade, c'est-à-dire qui a cessé de se soigner. On a cessé de soigner le social et tout ce qui en principe rentre dedans avec nous les humains, la nature, l'air que nous respirons, le climat, etc.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a de très nombreux parallèles à faire entre les crises majeures qui viennent de nous secouer ces dernières années. Et dans la redéfinition en cours de nos modèles de démocratie, il va falloir penser, anticiper ces crises déstabilisatrices, au risque sinon de voir s'écrouler nos démocraties elles-mêmes. C'était Démocratie en question, une émission de la première, avec le soutien du Fonds pour le journalisme, à la réalisation sonore, Jonathan Remy. N'hésitez pas à commenter cette émission, si vous le souhaitez, sur notre adresse mail, démocratie@rtbf.be, démocratie sans accent et au singulier, @rtbf.be. Notre prochain épisode sera justement un épisode plus participatif. On va parler de l'avenir de nos démocraties, des jeunes citoyens, de vos propositions, de vos suggestions aussi pour revitaliser la démocratie. Merci en tout cas de votre fidélité à ce rendez-vous.